plus intéressantes de la matinée. Donc je vais essayer d'être court, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle hein, quand un prédicateur dit ça. En général, c'est qu'il s'excuse déjà à l'avance, mais je vais vraiment essayer d'être court pour qu'on puisse tous fêter aussi voilà, les deux baptisés et puis continuer notre journée. Et puis je vais faire un numéro d'équilibriste aussi. Parce que dans notre église, dans notre communauté, hein, on vient de plein d'horizons très divers et variés. Il y en a qui sont croyants depuis 30, 40, 50 ans. Il y en a d'autres qui se sont convertis récemment. Donc déjà, il y a un gap culturel qui se crée, un fossé pour les plus âgés, culturel qui se crée, entre voilà, ceux qui sont là depuis très longtemps et puis ceux qui viennent d'arriver. Et puis... l'Église dans son ensemble, la famille chrétienne est très vaste, il y a beaucoup d'influences et puis d'horizons différents. Donc dans votre parcours, certainement, vous avez, peut-être pas votre première Église ici, donc vous avez déjà sûrement voyagé un peu partout. Et puis entre les Églises plus traditionnelles et puis les Églises peut-être plus pentecôtistes, charismatiques, il y a quelque chose de très vaste. Certains d'entre nous, on était même aussi catholiques à la base, donc c'est encore une autre culture très très loin. Donc on va essayer de parler à tous ces gens-là. Et puis en plus, c'est un dimanche de baptême. Ça veut dire que certains d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous mettez les pieds dans une église protestante évangélique. Donc je vais essayer du mieux que je peux d'être accessible pour vous dans ce petit temps. Et puis peut-être, voilà, si j'y arrive pas, vous me ferez grâce, du coup, j'espère. Mais pour vous expliquer, je vais essayer de répondre à une question simple. Et cette question, c'est pourquoi ce matin, quand vous êtes arrivé ici, alors imaginons, c'est votre premier dimanche dans une église protestante, une église chrétienne, vous arrivez. Bon, déjà, il n'y a pas assez de sièges, manifestement, ça, c'est un autre problème. Les gens ont l'air contents. Il y a une baignoire, très bien. Et il y a deux personnes qui vont plonger dedans, tout habillées. Qui sont ces gens. Et puis, il y a des paroles qui sont projetées voilà, du coup, sur un vidéoprojecteur, et puis tout le monde chante ensemble. Où est-ce que je suis tombé? Qu'est-ce que c'est? C'est un karaoké, exactement. Un karaoké qui parle de Jésus. Et donc, ma question ce matin, celle à laquelle je vais essayer d'apporter une réponse, c'est mais pourquoi, dans les églises chrétiennes, on utilise autant de chants et de musique? Pourquoi est-ce qu'on a trouvé que c'était une bonne idée de passer ce matin peut-être 25 à 30 minutes à chanter tous ensemble des chants qui n'étaient pas toujours très beaux, manifestement, même si l'équipe musicale a fait un très bon travail ce matin. Quel intérêt en fait on a de faire ça? Pourquoi on fait ça? Alors, pour nous accompagner dans la réponse à cette question, on va prendre deux passages de la Bible. En tant que protestant, en tant que protestant évangélique, c'est un livre qui est très important pour nous. Pour nous, c'est vraiment un message que Dieu nous a donné, qui vient nous parler, nous façonner, nous édifier. Donc on va souvent se référer à ce livre. Vous avez déjà entendu plusieurs passages, plusieurs versets ce matin. Et puis on va en lire deux en particulier qui sont situés dans la deuxième partie de la Bible, qui est le Nouveau Testament. Et on va aller en particulier dans deux textes qui ont été écrits par l'apôtre Paul. Vous avez déjà sûrement entendu parler. Et c'est les deux textes qui vont nous accompagner pour essayer de donner une réponse à cette question. Et on va prendre le premier, c'est dans la lettre de Paul aux Éphésiens. On va aller au chapitre 5 et puis on va lire les versets 18 à 19. « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit, et vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. » J'avais oublié, du coup, éventuellement, je vais lire le verset 20. « À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » On lira dans un deuxième temps le second passage, et on verra que dans ce passage et dans le suivant, il y a des parallèles, il y a des choses qui sont identiques. Et puis, il y a des choses qui sont différentes. Et ce sera intéressant de voir comment est-ce que l'apôtre Paul adaptait aussi ce qu'il disait en fonction de l'église à laquelle il s'adressait. Nous, on est gagnants puisqu'on a les deux. Donc, ça nous permettra de faire une image encore plus complète. Mais on voit que Paul avait vraiment un intérêt pastoral. C'était vraiment des lettres à des églises, à des communautés particulières qu'il écrivait. Et donc, il s'adaptait aussi à la communauté à laquelle il s'adressait. Rencontrons l'église d'Éphèse, donc les Éphésiens. avec ce premier encouragement de Paul, ce premier conseil, ne vous enivrez pas de vin. Alors, vous allez me dire là tout de suite, il n'y a pas de lien direct avec la musique et le chant. À la rigueur, on pourrait se dire que c'est peut-être une lettre pour les Français. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre. Mais soyez remplis de l'Esprit. Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Alors, ce n'est pas juste un conseil de bonne conduite que Paul nous donne ici. Hein. Il y a un lien direct entre le verset 18 et le verset 19, on va le voir dans la suite. Mais le premier conseil que Paul nous donne, c'est plutôt relatif à la deuxième partie de ce verset 18. Ce n'est pas relatif au vin, ce verset, c'est relatif à notre relation avec le Saint-Esprit. Alors, si vous êtes novice, du coup, hein, si vous arrivez pour la première fois, le Saint-Esprit... Pour nous, en tant que chrétiens, c'est Dieu à l'intérieur de nous. Hein ? On se pose beaucoup de questions aujourd'hui avec l'arrivée de l'intelligence artificielle sur qu'est-ce que c'est un être humain ? Alors, il y a plein de réponses à cette question. La Bible, elle nous dit un être humain, c'est une maison pour quelqu'un d'autre. Nous avons été créés par Dieu pour être une maison pour son esprit, pour que l'esprit de Dieu vienne habiter à l'intérieur de nous. Et pour parler en fait de cette rencontre initiale entre Dieu et nous, entre le Saint-Esprit et nous, entre le Saint-Esprit et la maison dans laquelle il habite, la Bible nous parle d'une expérience initiale qui est le baptême du Saint-Esprit. Alors baptême, hein, ça ressemble un petit peu, plouf, voilà, dans l'eau, l'engagement envers Christ, etc., le fait de laisser sa vie ancienne derrière soi et de commencer une vie nouvelle avec Jésus. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est aussi identifié en particulier dans les lettres de Paul, dans les Actes des Apôtres, comme un moment où Dieu vient habiter à l'intérieur. Les disciples marchaient avec Jésus en Galilée, hein, ils étaient à côté de lui, puis des fois on se dit, ce aurait été chouette moi aussi si j'avais mes petites sandales, puis que je marchais avec Jésus comme ça. Mais on a un avantage sur les disciples, c'est qu'à l'époque, eux, ils marchaient à côté de Jésus, et nous on a Jésus qui marche à l'intérieur de nous, qui est à l'intérieur de nous. Ils étaient à côté, et nous, on a Dieu qui vit à l'intérieur. C'est un avantage et c'est un privilège, parce que la communication est censée être beaucoup plus fluide. Donc, si vous venez de certaines familles, peut-être plus pentecôtistes, de l'Église, voilà, le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose de très important pour vous. Vous pouvez dater ce moment, vous pouvez dire que c'était un mardi soir à la réunion de prière. Voilà, c'était en 2016, voilà, et puis du coup, à ce moment-là, j'ai vécu une expérience forte et c'est le moment où j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais ce verset ne parle pas de cette expérience initiale, il parle de ce qui se passe après. Si votre relation avec l'Esprit de Dieu se limite à ce mardi soir, du coup, vous avez juste lu la première page du livre et il vous reste encore tout le livre à lire. Ce que Paul nous dit dans ce verset, et c'est pour ça que j'ai choisi cette version en particulier, parce que vous savez, hein, traduire, c'est un peu trahir. Et les traducteurs de la Bible, quand ils ont essayé de rendre la complexité du texte hébreu ou du texte grec, ils ont dû faire des choix qui n'ont pas forcément toujours rendu en fait, les subtilités du texte d'origine. Et là, en fait, dans ce texte, le temps qui est utilisé par « laissez-vous constamment remplir par l'Esprit » dans le verbe « remplir », ce n'est pas un temps qui exprime une action qui se passe à un moment et qui est terminée. Vous ne pouvez pas juste... cochez ça dans votre to-do list et dire « ça y est, en fait, j'ai fait le truc, je suis rempli de l'esprit, je peux passer à la suite, il y a d'autres choses plus intéressantes à faire ». Ce que Paul nous dit, c'est qu'il faut qu'on se laisse constamment remplir par l'esprit. Le temps qui est utilisé en grec, il n'y a pas vraiment de correspondance avec les temps en français, mais c'est un temps qui exprime une action qui est toujours en train d'être produite. Si on voulait vraiment essayer de traduire en insistant, ce serait « soyez toujours en train d'être rempli du Saint-Esprit ». Et Paul nous dit « ne vous enivrez pas de vin ». Ça veut dire que ce n'est pas juste à petite dose. Si on veut en fait vivre cette communion avec le Saint-Esprit, il faut y aller un petit peu à fond. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, peut-être dans votre jeunesse. Hein, ou, alors les jeunes, n'essayez pas ça chez vous, mais si vous n'étiez peut-être pas chrétien à certains moments et que vous aviez un peu tendance à vous laisser aller dans les soirées étudiantes, vous savez que pour être ivre avec du vin, il ne faut pas juste un fond de bouteille. Il faut y aller un petit peu sévèrement, hein. Quand même, il faut bien entamer, alors ça dépend, il y a aussi des gens qui prennent un demi-verre et qui disent « oh, mais je suis pompette !» Mais en général, une personne à peu près d'une carrure normale, il faut déjà bien attaquer la bouteille pour pouvoir être ivre de vin. Donc le conseil de Paul, il est là pour nous dire la relation avec le Saint-Esprit, c'est un incontournable en fait dans la vie chrétienne et c'est quelque chose qui doit être cultivé avec intentionnalité, avec persévérance, avec ardeur. Là aussi, cette traduction, en fait, elle rend bien la conjonction entre le verset 18 et le verset 19. Dans d'autres traductions, en fait, les deux versets se suivent comme ça. On n'a pas forcément le lien entre les deux, mais dans le grec, il y a un petit mot qui fait le lien entre le verset 18 et le verset 19. Et c'est important, parce que là aussi, il y a eu beaucoup de prédications sur le verset 18 tout seul, la communion avec le Saint-Esprit, super. Et puis des prédications sur le verset 19 tout seul, les chants, la musique, la louange, c'est super. Mais dans l'intention de Paul, les deux versets sont reliés. La condition nécessaire et suffisante pour une vie de louange riche dans nos églises, nos communautés, c'est pas d'avoir un super guitariste, c'est pas d'avoir choisi des chants suffisamment beaux, c'est pas d'avoir un très beau nouveau piano ou une super table de mixage. La condition nécessaire et suffisante pour une vie de louange dans nos assemblées, pour l'apôtre Paul, c'est d'être rempli constamment du Saint-Esprit. Pas juste le pasteur, pas juste l'équipe de louange, mais chacun d'entre nous, en fait, dans cette communion avec Dieu au quotidien, dans cette interaction, dans cette relation avec Dieu, il y a quelque chose qui se crée et qui fait que quand nous nous rassemblons en Église, la louange va jaillir naturellement de nos cœurs. Ce qui va créer la louange dans l'Église, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que c'est important de cultiver la relation avec lui au quotidien. Il y a un pasteur américain qui disait « Le Saint-Esprit, c'est un peu le Dieu oublié. » Jésus, on sait, c'est la croix, la résurrection, tout ça, voilà, j'ai Dieu qui s'est fait homme. Le Père Céleste, c'est plus compliqué, suivant les relations qu'on a eues avec nos parents terrestres, mais on comprend l'idée, voilà, le Père, le Créateur, voilà, celui qui nous adopte. Mais le Saint-Esprit, c'est un peu le Dieu dont on ne sait pas quoi faire, en fait, dans notre vie quotidienne. Comment être en relation avec un Dieu qui est complètement différent de nous ? Peut-être une première idée, ce serait déjà de simplement reconnaître qu'il est là. Hein, c'est jamais agréable quand vous passez à côté de quelqu'un, puis que vous lui dites pas bonjour, vous ne faites pas attention à lui, vous ne reconnaissez pas simplement qu'il est là. Alors je vous encourage, peut-être dans votre vie quotidienne, simplement à saisir des petits moments pour réaliser que Dieu habite à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, il y a une partie en fait qui est la plus profonde, qui est la plus enfouie, et c'est la partie où Dieu habite à l'intérieur. Le philosophe Pascal disait « Il y a un vide en nous qui est en forme de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut remplir ce vide. » Et c'est le Saint-Esprit qui va venir remplir ce vide à l'intérieur. Quand le Saint-Esprit remplit ce vide à l'intérieur, la conséquence, ça va être le verset 19, c'est qu'on va commencer à s'encourager mutuellement en Église en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Et je vais m'arrêter sur ces trois catégories. Vous allez voir que dans le deuxième passage qu'on va lire, elles sont présentes aussi, ce qui veut dire que pour Paul, en fait, ces trois catégories avaient un sens particulier. Alors, je ne prétends pas être l'apôtre Paul, donc je vais donner ma propre définition de ces trois catégories, mais vous avez le droit aussi d'y mettre aussi d'autres choses. Hein. Mais ces trois mots, en fait, ils font vraiment résonner des choses aussi pour moi qui me semblent importantes dans nos chants, dans les moments en fait, de louange qu'on peut avoir en assemblée. Ce n'est pas juste des moments de chant sympathique, ce n'est pas juste un karaoké, ce n'est pas juste un petit moment sympathique avant le moment important de la scène ou de la prédication. C'est un moment qui est central aussi dans notre vie de communauté. C'est le moment où on va pouvoir louer Dieu de tout notre cœur. C'est le moment où on va pouvoir apporter notre reconnaissance à Dieu, comme le dit le verset 20, dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, tout ce qu'il continue à faire aujourd'hui, pour la personne qu'il est, pour la ressource qu'il est pour nous. En fait, apporter notre louange à Dieu, c'est notre langage d'amour et d'affection envers lui. Et c'est pour ça que ces chants, ces psaumes, ces hymnes, ces cantiques, ils sont importants pour qu'on puisse exprimer notre reconnaissance, qu'on puisse exprimer notre affection à Dieu, individuellement, mais aussi tous ensemble. Alors commençons avec les psaumes. Les psaumes, ça vous parle peut-être du livre de l'Ancien Testament, le livre des psaumes, c'est 150 cantiques qui s'enchaînent les uns à la suite des autres, qui ont accompagné le peuple d'Israël pendant longtemps et qui ont été aussi pillés par les chrétiens depuis 2000 ans, puisque ça a nourri beaucoup nos chants. Vous avez entendu ce matin, on a cité plusieurs versets des psaumes, on en a chanté aussi. Les psaumes, pour moi, ça me parle de la richesse des chants qui sont issus directement du texte biblique. En tant que protestant évangélique, on est très fier de la Bible. C'est un peu le truc qu'on a remis un petit peu au goût du jour. Voilà, Gutenberg, on a imprimé, on l'a donné à tout le monde, et on la lit, et puis c'est la Bible en fait qui nous définit. Si vous lisez les dernières études sur la lecture de la Bible dans les églises chrétiennes, vous voyez que toute catégorie confondue, la lecture de la Bible est en chute, même chez nous. Je ne vous ferai pas en fait, le petit questionnaire de savoir si vous avez lu votre Bible cette semaine, mais peut-être qu'il y en a certains d'entre vous, vous avez une petite goutte de sueur qui commence à perler sur votre front, parce qu'il y a tellement de choses qui occupent notre attention aujourd'hui, hein. Il y a même plein de petits outils en fait, qu'on peut glisser dans notre poche, et puis on peut passer des heures dessus à jouer avec des petits oiseaux ou des petites boules qu'il faut mettre ensemble, ou à discuter avec plein de gens au bout du monde, ou à regarder toutes les infos people, ou... Ça fait que le temps consacré à lire la parole de Dieu, il est de plus en plus réduit. Alors c'est une bonne nouvelle pour nous que dans les chants qu'on va prendre le dimanche, la parole de Dieu puisse saturer ces chants. Parce que, comme Théo le racontait, en fait, je ne suis pas dupe. Hein, je sais très bien que mercredi, vous aurez oublié de quoi j'ai parlé ce matin. Je ne vous en veux pas. Vous avez tellement de choses à penser, mais il y a de fortes chances que vous vous souveniez du chant pas très beau qui a suivi le baptême de Théo. Celui-là, il va peut-être vous accompagner, parce que mine de rien, il est assez entêtant, et puis les paroles sont jolies. Et peut-être cette semaine, à un moment où vous êtes un peu en difficulté, vous allez vous rappeler, ah oui, c'est vrai, sois mon ancre et ma voile. Vous allez oublier la prédication, mais vous n'allez pas oublier le chant. Alors merci Seigneur, parce que dans nos chants, la parole de Dieu peut être vivante, elle peut être présente. Et peut-être c'est une des choses auxquelles on peut faire attention, que la parole de Dieu puisse être vraiment présente dans tous les chants qu'on peut chanter le dimanche, pour que ça puisse nous exhorter aussi à nous rapprocher de la parole de Dieu. Les hymnes, ça me parle de la richesse de tout ce qui a été créé par des êtres humains qui ont été en relation avec Dieu au fur et à mesure des siècles. On peut remonter très loin, jusqu'au livre des psaumes, hein, avec le roi David, avec les psalmistes. Et puis on peut passer par les cantiques de l'Église primitive. On en trouve plusieurs dans le Nouveau Testament, dans les lettres de Paul. À certains moments, il y a des extraits de cantiques qui sont là. On voit que c'est des cantiques qui n'étaient pas du tout centrés sur « Bénis-moi Jésus, fais-moi du bien, permets qu'on ait de l'argent cette année, permets qu'on ait des récoltes ». Ce n'était pas du tout ça. Les cantiques de l'Église primitive, ils étaient centrés sur Jésus, sur sa royauté, sur sa divinité, sur sa mort, sur sa résurrection et sur tout ce qu'il préparait pour nous, en fait, pour qu'on soit réunis avec lui dans le royaume de Dieu. Et puis au fur et à mesure des siècles, vous arrivez au 4e siècle, c'est le premier cantique qui est retrouvé dans l'histoire de l'Église. C'est un cantique en latin qui s'appelle « Veni Spiritu Creator ». C'est une invocation à l'Esprit de Dieu qui dit « Viens, Esprit de Dieu Créateur ». Et c'est un cantique en fait sur tout ce que le Saint-Esprit fait dans la vie du croyant au 4e siècle. Puis vous traversez, alors du coup hein, après bon, les goûts et les couleurs vous aimez ou pas, mais vous passez par les cantiques grégoriens, vous passez par toute l'histoire un petit peu du chant choral. Et puis, il y a eu des moments en fait, où l'Église a eu peur un petit peu de ce pouvoir de la musique et du chant. Et c'est compréhensible. Hein. Moi, je suis ingénieur du son de formation, j'ai fait du coup, des études là-dedans, je travaille là-dedans depuis 20 ans. Et puis, un de mes clients, c'est une société qui créait des sons qui représentaient les différentes cultures du monde. Donc, j'ai dû chercher en fait, des musiques issues du Japon, de Tanzanie, de Bolivie, etc. Puis aller chercher des musiques qui sont représentatives des différentes parties du monde, quoi, des différents peuples, des différentes tribus. Et ce qui m'a frappé, c'est que la majorité de la musique et du chant qui est utilisée dans le monde aujourd'hui, c'est une musique qui est utilisée pour un but religieux, spirituel, cultuel. En fait, la société occidentale, c'est la seule qui utilise la musique à but simplement de divertissement. On a l'impression que c'est juste pour ça que ça sert, c'est comme le cinéma, c'est comme quand on va au musée, du coup voilà, la musique ça nous divertit, on va voir notre chanteur préféré, etc. En vrai, dans le monde et dans la Bible, la musique et le chant ne sont pas des outils de divertissement, mais des outils spirituels. Ce sont des outils qui nous aident à nous connecter avec ce qui est au-delà du visible. Et dans la Bible aussi, en fait, quand on chante à Dieu, ben quelque part on s'ouvre à Dieu d'une manière spécifique. Quand on s'approche de Dieu au travers de la musique et du chant, peut-être que voilà, la prédication ne va pas vous parler spécifiquement, mais peut-être qu'au détour d'un chant, d'une mélodie, d'une phrase particulière qui va être chantée, tout à coup, Dieu va saisir votre cœur d'une manière particulière et vous révéler quelque chose de qui il est. Et les deux sont complémentaires, en fait. La musique et le chant nous permettent d'aller au-delà de juste notre capacité rationnelle, notre cerveau, notre analyse très sérieuse. Elle nous permet aussi d'embrasser notre humanité dans tous ses aspects. Tout au long des siècles, du coup, voilà, la musique et le chant ont accompagné l'Église. La réforme protestante, la musique et le chant ont pris une place importante. C'est le moment où Martin Luther, du coup, le premier réformateur, un des premiers réformateurs, a décidé de quitter le latin, qui était une langue qui n'était pas connue par la plupart des personnes qui étaient dans son église, et de réécrire à nouveau des cantiques dans la langue des paysans allemands qui venaient dans son église. Et là aussi, il a réalisé qu'il faisait des très belles prédications, très théologiquement correctes, mais ce que les paysans allaient se souvenir, c'était les chants qui allaient être pris pendant l'église, pendant le temps de culte. Et puis on peut aller jusqu'à aujourd'hui, et depuis des milliers d'années, il y a des êtres humains qui essaient de trouver des moyens de décrire qui est Dieu en utilisant les ressorts de la langue qui est la leur, que ce soit l'hébreu, que ce soit l'anglais, que ce soit des dialectes africains, que ce soit en français. Il y a des chrétiens partout qui essaient de mettre des mots sur qui est Dieu, sur comment on est en relation avec lui encore aujourd'hui. Et on pourrait se dire à quoi ça sert, puisque du coup, la Bible c'est un vieux livre, on ne va pas réinventer l'eau chaude, c'est déjà là depuis longtemps. C'est le même livre, c'est la même bonne nouvelle, mais ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas la même société, ce n'est pas la même culture. Et ce message de l'Évangile, il faut qu'on le réactualise aujourd'hui, qu'on puisse l'adresser à ceux qui nous entourent, qu'on puisse le parler dans la langue d'un jeune de 15 ans qui écoute du rap ou d'un papy peut-être de 80 ans qui a passé sa vie dans l'église. Il faut réinventer en fait cet évangile pour le mettre à la disposition de tout le monde. C'est presque un travail missionnaire en fait. Et puis on a un Dieu qui est merveilleux, qui est au-delà des catégories, au-delà des cases dans lesquelles on peut essayer de le faire rentrer. Donc finalement, on n'a jamais fini de décrire avec les ressorts de la poésie, avec les figures de style, avec les rimes, eh bien la beauté de qui est Dieu au travers de la musique et du chant. Troisième catégorie, les cantiques inspirés par l'esprit. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Si vous venez plutôt là encore d'une famille chrétienne plus pentecôtiste, immédiatement dans votre tête, vous allez penser au chant dans des langues inconnues. C'est quelque chose dont l'apôtre Paul nous parle dans la lettre aux Corinthiens, chapitres 12 à 14. Alors ça peut en faire partie, mais j'aimerais ouvrir peut-être votre horizon dans ce cas et vous parler d'une catégorie de chants qui était très utilisée dans l'Ancien Testament et aussi dans l'Église du 1er siècle dans le Nouveau Testament. Il y a un mot, pour ceux qui font les présidences avec moi depuis quelques mois, en fait, je fais les mots hébreux qui sont reliés à la louange. Il y a un mot dans l'Ancien Testament qui est le mot Tehillah, que vous connaissez en français. C'est le livre des psaumes, c'est le livre des Tehillim. Et donc, on peut traduire ça par le livre des louanges, le livre des louanges chantées. C'est sur l'aspect d'utiliser notre voix pour chanter à Dieu. Mais il y a un aspect spécifique de ce mot, un sous-sens, qui est le fait de chanter à Dieu de manière spontanée. Alors aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais dans l'histoire de la Bible, on retrouve souvent des cantiques qui semblent jaillir comme ça dans l'histoire. Si vous allez par exemple dans Exode au chapitre 15, vous voyez que Myriam va saisir un tambourin juste après en fait la victoire que le peuple vient d'avoir sur les Égyptiens qui les poursuivaient pour les massacrer. Et donc elle prend un tambourin et elle commence à entraîner le peuple d'Israël dans un chant qui décrit la victoire qui vient de se produire. Ça veut dire que ce n'est pas un chant qui existait dans le répertoire de cantiques du peuple d'Israël, c'est un moment où, en réaction à ce que Dieu est en train de faire, elle va jaillir d'un chant spontané devant ce que Dieu vient d'accomplir. C'est un chant de témoignage, c'est un chant qui jaillit spontanément pour exprimer la louange à Dieu. Un des Tehillim les plus connus, c'est ce qu'on appelle le Magnificat, c'est-à-dire la prière de Marie quand l'ange Gabriel vient lui annoncer que Jésus va naître par son intermédiaire. Vous l'avez peut-être entendu dans votre jeunesse ou à d'autres moments. « Mon âme bénit le Seigneur », etc. Donc c'est un beau texte comme ça. On sent qu'il y a un changement dans le texte à ce moment-là, puisque du coup, c'est pas tout à fait... En se promenant comme ça, on ne part pas dans « Mon âme bénit le Seigneur ». Voilà. Mais dans la métrique du texte, on voit en fait que c'est un chant qui est destiné... C'est un texte qui est destiné à être chanté. C'est pas juste un poème, c'est un chant. Il y a un chant spontané qui jaillit dans le cœur de Marie, cette jeune fille du coup juive de l'époque, et c'est une pratique qui était courante de jaillir spontanément en louange quand on voyait Dieu faire quelque chose. Alors aujourd'hui peut-être c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup moins, mais dans l'histoire de l'Église il y a eu des moments où on a essayé de se réapproprier ces choses, par exemple au travers de l'art de la psalmodie. La psalmodie en fait ça consiste à prendre le texte biblique et au lieu de juste le lire dans notre tête, ou éventuellement le lire à haute voix, de chanter en fait ce texte avec la mélodie qui vient. C'est quelque chose qui a été pratiqué à certains moments. En tant que musicien, c'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué et qui m'a beaucoup apporté dans ma relation avec Dieu. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais la grande majorité, en tout cas peut-être pas la majorité, mais une grande partie du texte biblique est déjà de la musique et du chant. Le livre des psaumes, on en a parlé, facile. Le cantique des cantiques, tout est dans le titre, c'est un chant. Mais même dans les livres prophétiques de l'Ancien Testament, en fait, si vous prenez le livre de Joël, par exemple, de Nahum, de Habakkuk, ben c'est des livres qui sont des œuvres liturgiques, c'est destiné à être chanté, pas juste à être lu ou entendu. Un petit dernier pour la route, les Lamentations de Jérémie. Voilà, c'est pas juste Jérémie qui pleure dans son coin, c'est surtout une chanson triste sur la chute de Jérusalem, en fait, sur la déportation en fait, du peuple juif à Babylone. C'est un chant, et le chant il est là pour une raison particulière, parce que ce chant il va accompagner en fait, aussi la louange qui monte vers Dieu. Alors vous allez me dire, c'est chouette, mais bon, finalement, c'est très vertical, en fait, comme pratique. Hein. On chante à Dieu, voilà, on pourrait faire ça chez nous, on n'est pas obligé de se réunir un dimanche pour ça. Ben, Paul insiste dans ce verset que la louange, elle a deux dimensions. Elle a la dimension verticale, effectivement, de notre communion personnelle et communautaire avec Dieu, mais elle a aussi, en fait, un rôle qui est horizontal les uns avec les autres. Dans ce verset, en fait, Paul insiste au verset 19, « Si vous êtes tous remplis du Saint-Esprit de manière régulière et constante, vous allez... » vous encourager mutuellement en chantant. C'est pour ça, peut-être, si vous avez l'habitude de fermer les yeux le dimanche et de lever les bras au ciel comme ça, peut-être qu'il faut les ouvrir et regarder en fait ceux qui sont autour de vous de temps en temps. Parce que vous chantez à Dieu, mais vous rappelez aussi à vos frères et sœurs que c'est notre moment pour louer Dieu. Peut-être qu'il y a des frères et sœurs à côté de vous qui passent la pire semaine de leur vie. Et là, vous êtes à côté d'eux et vous allez dire « Dieu fidèle, qui ne change pas. Souviens-toi, mon frère, ma sœur. » Dieu est là et il ne va pas t'abandonner. Donc il y a vraiment cet aspect où c'est aussi horizontal. On est les uns avec les autres. C'est une activité qui est aussi communautaire. Et c'est pour ça aussi qu'on utilise le chant et la musique pour cela. On va lire le deuxième passage dont je vous ai parlé. C'est dans Colossiens au chapitre 3 et au verset 16. Et puis je vous rassure, du coup j'arrive à la fin un petit peu de ce que j'avais à vous partager. Donc on va bientôt pouvoir passer à la suite. Et on va voir du coup dans ce passage qu'il y a des parallèles et il y a aussi, donc je disais, des différences. On va voir ce que ces différences nous apportent comme complément, comme richesse aussi dans notre réflexion de ce matin. Que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Le « ou » ici n'est pas forcément la traduction la plus explicite. Pour l'apôtre Paul, là encore, en fait, c'est un tout. Alors, on retrouve un peu les choses qu'on a vues dans ce premier passage. Hein. On retrouve les trois catégories, les psaumes, les hymnes, les cantiques inspirés par l'Esprit. On retrouve la reconnaissance à Dieu, là aussi, dire merci à Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait pour nous, c'est quelque chose qui est important. C'est un conseil que Paul va donner vraiment aux deux églises. Et puis, dans les différences, on va voir que autant à l'église... des Éphésiens, Paul va conseiller de se laisser remplir constamment du Saint-Esprit. Autant à l'église aux Colossiens, en fait, Paul va leur conseiller de laisser la parole du Christ résider au milieu d'eux dans toute sa richesse. Alors, je ne connais pas en fait, l'histoire de ces deux églises particulières, mais apparemment, Paul semblait penser qu'il y a une église qui avait besoin d'approfondir sa communion avec le Saint-Esprit, et il y a une église qui avait besoin d'approfondir son ancrage dans la parole de Dieu. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que notre louange soit équilibrée, il nous faut les deux. Il nous faut l'Esprit de Dieu en fait, qui vit à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et il nous faut la parole de Dieu qui soit vraiment la fondation, l'ancrage solide aussi de notre vie de louange et d'adoration. J'aime bien aussi que Paul souligne que c'est la parole du Christ. La parole de Dieu, hein, c'est un des noms qui est donné dans Jean au chapitre 1 par exemple, qui est donné à Jésus. La parole de Dieu, c'est Jésus. Donc finalement, dans la louange, on va être au contact de l'Esprit de Dieu, mais on va aussi être au contact de Christ. On va être au contact de la parole de Dieu. Des fois, dans nos cultes, on a l'impression que le moment de la parole, c'est le moment sérieux, là où je suis en train de parler en lisant un texte biblique. En fait, la parole de Dieu, elle est présente tout au long de ce temps de réunion qu'on va avoir. Il y a des lectures, il y a des textes qu'on va citer. Dans le moment de prière spontanée, souvent, on va lire des versets. Mais dans les temps de louange, je disais, voilà, les chants sont imprégnée aussi de la parole de Dieu, de la Bible. Et puis au-delà, en fait, juste du texte biblique, il y a quelqu'un qui s'adresse à nous, en fait, dans nos réunions. Nous venons pour dire à Dieu notre reconnaissance et notre amour, mais Dieu, en fait, vient nous répondre aussi. Il vient parler à nos cœurs. Il le fait pendant la prédication, mais il le fait, bien sûr, dans les autres moments de nos réunions, dans la scène, dans la louange. Dans tous ces moments, en fait, Dieu cherche à parler à son Église, cherche à parler à chacun d'entre nous. Alors laissons la parole de Dieu résonner dans nos temps de louange. Et puis dans cette dimension verticale, dans la lettre aux Éphésiens, manifestement, ce dont l'Église avait besoin, c'était d'être encouragée, qu'ils puissent s'encourager mutuellement. Là, les Colossiens, c'est plus droit, hein, c'est plus rectiligne, mais ce que Paul exprime, c'est que la parole de Dieu doit inspirer une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres. Ça veut dire que les chants qu'on prend le dimanche matin sont aussi là, bien sûr, ils sont là pour nous encourager, mais ils sont là aussi pour nous instruire, pour qu'on puisse découvrir un peu plus qui est Dieu. Et c'est peut-être ça aussi un peu le mystère de ces moments de chant et de musique dans nos églises, c'est que dans ces moments, on va tout d'un coup découvrir des choses sur qui Dieu est, auxquelles on n'avait pas fait attention. Dieu va se révéler d'une manière spécifique dans ces moments de chant qu'on va prendre ensemble. Peut-être ce matin, vous avez été touché par la fidélité de Dieu quand on a chanté ce chant « Dieu fidèle ». Tout à coup, cette fidélité qui vous semblait très lointaine, elle s'est révélée proche de vous. Peut-être en chantant « Mon ancre et ma voile », vous disiez « Mais c'est vrai en fait, Seigneur, tu es mon ancre, tu es celui qui m'affermit, en fait, si tu n'étais pas là, je serais par terre. » Dans ces moments de chant, on découvre quelque chose de nouveau sur Dieu. On s'instruit mutuellement. Et puis on s'avertit aussi les uns les autres. On se rappelle qu'on est là dans une course qui a un début et une fin, mais on n'est pas arrivé encore. On s'encourage, on s'instruit et on s'avertit les uns les autres. On a fait des études sur les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. On s'est rendu compte que ce qui reste tout à la fin de cette maladie terrible où les gens disparaissent tout en étant encore là, où leurs souvenirs et leurs mémoires s'en vont, ce qui reste à la fin, c'est les chants. Les chansons, les berceuses que les parents chantaient, les chansons qu'on chantait à l'école, les comptines, la chanson qu'on a chantée lors de notre premier crush amoureux. C'est ça qui reste jusqu'à la fin. Alors béni soit Dieu pour la musique et les chants. Béni soit Dieu parce qu'il nous a donné cet outil pour pouvoir exprimer notre louange et notre adoration dimanche après dimanche. Et béni soit Dieu parce qu'il nous a donné aussi ses chants pour nous accompagner dans cette route qui est parfois difficile de la vie sur terre. Et peut-être comme Théo, vous aussi, hein, dans les moments difficiles, dans les moments les pires de votre vie, au moment où vous avez envie de tout lâcher, il y a un chant qui va revenir et qui va s'adresser à vous. Pour moi, ce sera l'œuvre du Saint-Esprit qui vous rappelle qu'il n'est pas loin et qui remet à votre mémoire la vérité sur qui Dieu est et qui vous êtes en lui. Je vais prier. Père Céleste, merci pour ces deux textes, merci pour ces conseils de la part de l'apôtre Paul. Seigneur, je ne suis pas impartial, mais je veux te dire merci pour la musique et le chant. Merci pour ces outils que tu nous as donnés, Seigneur, pour pouvoir exprimer notre affection pour toi, notre louange et notre adoration. Et Seigneur, nous voulons suivre les conseils de Paul dans notre Église aussi et dans notre vie de tous les jours. Nous prions que l'Esprit puisse demeurer, ton Esprit, à l'intérieur de nous pour qu'il puisse faire jaillir cette louange riche, vive, qui va nous encourager à t'aimer, qui va nous encourager aussi à la pratique du bien. Nous prions pour que ta parole soit le fondement sur lequel notre louange est construite. Que la parole de Christ réside au milieu de nous dans toute sa richesse pour que nous puissions nous instruire et nous avertir les uns les autres. Seigneur, je prie que tu viennes vivifier notre vie de louange, que tu viennes vivifier, Seigneur, ces moments communautaires le dimanche ou peut-être à d'autres moments de la semaine, que tu viennes vivifier notre relation avec toi au travers de la louange aussi dans nos vies quotidiennes. Quand nous sommes dans notre voiture, quand nous sommes dans la rue, quand nous sommes peut-être dans le secret de nos maisons, que la louange soit vraiment notre bande musicale, notre bande son, que ce soit quelque chose qui nous permette d'être constamment en relation avec le Dieu qui a créé l'univers et qui a fait chacun d'entre nous. Sois glorifié, Seigneur, toujours au travers de nos bouches, au travers de nos vies. Amen.